de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en colère et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal, soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. On commence par le titre « L'Indonésie inspire le batik à l'étranger ». La Grande-Bretagne soutient les priorités maritimes de Jokowi par l'intermédiaire de financement de l'éducation. Luhut dit que le système commercial doit être revu. Le ministre indonésien de l'économie a accueilli la visite du ministre américain du commerce. 8 pays présentent la sophistication de la technologie de cybersécurité. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le 7e symposium sur le textile traditionnel de l'ASEAN 2019 à Yogyakarta le mardi 5 novembre a été ouvert par le président du comité ATTS 2019, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, président de Wastra Prema, Adiyati Arifin Siregar, et représentant la région spéciale Yogyakarta, Arofanur Indriani. Après la cérémonie d'ouverture, Gusti Kanjeng Ratu Hemas a entouré une exposition textile située dans le pavillon royal d'Ambarukmo avec l'impératrice du roi de Malaisie, l'impératrice Agung Tunku Hajah Aziza. Gusti Kanjeng Ratu Hemas a déclaré à la presse l'opinion de l'impératrice de Malaisie concernant le textile indonésien, notamment le batik.
Kalau permaisuri yang dua-dua itu semuanya senang batik. Ya, terus nanti kalau udah lihat biasanya dia bikin.
Toutes les impératrices sont heureuses avec le batik. Puis plus tard, quand elle voit, elle est fait habituellement en Malaisie. Commencer la conception, commencer tout. Mais ça va parce que de toute évidence, elle ne peut pas utiliser chanting du village. Habituellement, la Malaisie est plus contemporaine. Je pense que nous devons vraiment donner la nuance de l'Indonésie à l'étranger. À la même occasion, Gusti Kanjeng Ratu Hemas a également déclaré que les difficultés rencontrées par les textiles traditionnels indonésiens étaient la matière première. Elle espérait que le gouvernement pourrait prêter attention aux matières premières pour les artisans, telles que la tirée de batik, les colorants naturels, etc., afin que les artisans puissent améliorer les résultats des matières textiles locaux. Gusti Kanjeng Ratu Hemas a également déclaré que le développement du batik indonésien était assez important avec la présence de nombreuses nouvelles techniques de tissage. Le gouvernement britannique soutient les priorités maritimes promues par le président Joko Widodo au cours de la première période de 2014 à 2019 en organisant un programme intitulé « Skill for Prosperity » sous la forme d'un financement pour l'enseignement supérieur professionnel ou polytechnique dans le domaine maritime. En lançant mardi à Jakarta le programme Skill for Prosperity à Jakarta, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie a évoqué les deux priorités de Jokowi, à savoir l'amélioration de la qualité des ressources humaines et des affaires maritimes incluses dans le programme. Jenkins a déclaré que le président Jokowi avait compris que le développement des ressources humaines de l'Indonésie, en particulier au secteur maritime, était très important et que la Grande-Bretagne avait de nombreuses offres pouvant s'appuyer sur des siècles d'expérience maritime et une solide éducation maritime. Jenkins a ajouté que l'Indonésie met en place des ressources humaines dotées des connaissances et des capacités nécessaires à l'avenir pour pouvoir compter sur le secteur maritime pour améliorer l'économie. Luhut Binsar Panjaitan, ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement, était l'un des conférenciers à la conférence intitulée « Réforme de l'OMC et accord de libre-échange, options et perspectives » lors de l'ouverture de l'expo d'importation internationale de la République populaire de Chine qui s'est tenue en Chine mardi dernier. Luhut Panjaitan a déclaré que le système commercial actuel devait être revu car il résultait de négociations menées il y a plus de 20 ans. Luhut Panjaitan, dans un communiqué de presse reçu par la republica.co.id à Jakarta mercredi, a estimé que le libre-échange au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, devait être fondé sur l'esprit du mandat du programme de Doha pour le développement 2001, à savoir la réglementation du commerce multilatéral avec des dimensions de développement et examiner les capacités des pays en développement. Luhut a également déclaré que le gouvernement indonésien continuait d'apporter diverses améliorations dans le domaine de la réglementation et fournissait la certitude d'aider les investisseurs dans le processus d'investissement. Le ministre de la Coordination de l'économie indonésienne, Airlangga Hartarto, a accueilli mercredi le ministre américain du commerce, Wilbur Ross, et sa délégation à Jakarta. Comme ce que Antara a rapporté que le ministre Airlangga a expliqué que les États-Unis avaient intérêt à résoudre un certain nombre d'obstacles commerciaux, tels que l'exigence minimale de contenu local et divers autres règlements limitant l'espace réservé aux industries et aux entreprises des sociétés américaines en Indonésie. Le ministre espère que les deux pays pourront profiter de cet élan pour renforcer leurs relations et accroître leur investissement et le commerce à double sens par l'entreprise durable, en apportant des avantages pour chaque pays. En commémoration de 70 ans de relations bilatérales avec l'Indonésie, les États-Unis ont également offert de participer au développement des infrastructures, des travaux publics, de l'énergie et d'autres secteurs par une coopération avec des parties privées et des entreprises d'État. 8 pays ont présenté la sophistication des technologies de la cybersécurité et de l'économie numérique à la conférence Cybersecurity Indonesia and Indonesia Fintech Show 2019 tenue au Centre des Conventions de Jakarta mercredi dernier. Les 8 pays, à savoir l'Indonésie, Singapour, la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la Corée du Sud. Près de 100 entreprises nationales et étrangères engagées dans le secteur de la cybersécurité et de la technologie financière ont participé à l'exposition. L'exposition et la conférence sur la cybersécurité ont duré 3 jours, du mercredi 6 novembre au vendredi 8 novembre, et ont été ouvertes au public. Cette exposition a été organisée par Tarsus Indonesia, en collaboration avec l'Association indonésienne des télécommunications cellulaires, avec l'appui total de l'Agence nationale de cyber et de codage, du ministère de la Coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, du ministère de la Défense et de la Police nationale. Nikowe Budiman, directrice de produits de Tarsus Indonesia, a déclaré que cet événement présentait divers développements de l'industrie et les dernières technologies de cybersécurité et de fintech. Elle espérait que ce serait la bonne solution pour que les entreprises répondent à tous les besoins de cybersécurité et de services financiers basés sur la technologie. Voilà le journal d'aujourd'hui. Voici le commentaire sur promouvoir le textile traditionnel indonésien, d'être à la pointe de l'ASEAN. Le 7e symposium sur le textile traditionnel de l'ASEAN se tiendra à Yogyakarta du 5 au 8 novembre 2019. Le symposium a pour thème « Embrasser les changements, respecter les traditions ». Cette activité était organisée par la Société des arts textiles traditionnels de l'Asie du Sud-Est, une organisation engagée dans la conservation des tissus textiles dans l'ASEAN. Le président de la Société des arts textiles traditionnels de l'Asie du Sud-Est, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, a déclaré que le symposium avait pour objectif de faire progresser les connaissances scientifiques sur le textile traditionnel en termes de matériaux, de motifs et de techniques. Les efforts visant à accroître la connaissance des matériaux, des motifs et des techniques de textiles traditionnels sont très appropriés étant donné que la production de textiles traditionnels, en particulier des tissus faits à la main, tend à décliner. Le déclin de la production de textiles traditionnels faits à la main et l'augmentation de la production de textiles bon marché de qualité médiocre préoccupent gravement les amateurs de draps traditionnels dans le monde, y compris ceux qui aiment les tissus traditionnels en Indonésie. La baisse de la production de textiles artisanaux traditionnels fabriqués à la main est due à plusieurs facteurs. Premièrement, les textiles artisanaux traditionnels fabriqués à la main sont très coûteux. Lorsque la fabrication de textiles traditionnels prend beaucoup de temps, c'est ce qui rend le prix élevé. Le prix élevé rend le textile artisanaux traditionnel très peu demandé par le public. Les Indonésiens préfèrent acheter des produits textiles artificiels traditionnels importés et bon marché. À l'heure actuelle, en Indonésie, il existe de nombreux produits textiles d'imitation traditionnelle importés et bon marché. La deuxième cause est que les tissus traditionnels ont toujours une texture rigide et lourde qui ne peut pas être conçue d'être le vêtement de tous les jours. Ainsi, sa part de marché devient limitée. Les efforts visant à faire progresser les connaissances scientifiques sur le textile traditionnel en termes de matériaux, de motifs et de techniques, tels que celles menées dans le cadre de ce symposium, doivent être poursuivis afin que le textile traditionnel indonésien puisse être à la pointe de l'ASEAN. Le textile traditionnel indonésien mérite d'être à la pointe du monde des textiles traditionnels, car l'Indonésie est riche en textiles variés. Chaque région d'Indonésie a ses propres textiles traditionnels. Les artisans des tissus traditionnels doivent trouver des moyens de transformer les motifs traditionnels en matériaux confortables, souvent utilisés pour l'habillement. De cette façon, le tissu traditionnel indonésien est très demandé. En termes de technologie, il est prévu que les entreprises maintiendront le processus de fabrication à la main et n'auront pas besoin de fabriquer des produits de masse en utilisant la technologie ou machine. La technologie peut être utilisée à des fins d'efficacité. Mais on s'attend à ce que les artisans finissent encore l'étape finale en utilisant le toucher d'une main pour que la valeur de la créativité humaine ne soit pas perdue dans le tissu. C'était le commentaire. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui. On commence par le 7 novembre 1945, la fondation du Parti de l'Assemblée indonésienne Shura Muslimin. Le Parti de l'Assemblée indonésienne Shura Muslimin, ou en indonésien, Partai Majelis Shura Muslimin Indonesia, abrégé en Mashumi, a été fondé le 7 novembre 1945, peu après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie. En moins d'un an, il est devenu le plus grand parti politique en Indonésie. Mashumi appartient à la catégorie des organisations islamiques, au même titre que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah. Pendant la période de démocratie libérale, les membres de Mashumi siégeaient à la Chambre des représentants. Certains membres de ce parti ont été élus premiers ministres de l'Indonésie, tels que Muhammad Natsir et Burhanuddin Harahap. Ce parti a été interdit en 1960 par le président Sukarno pour avoir prétendument soutenu la révolte du gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie ou en indonésien, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, abrégé en PRRI. Le 7 novembre 1996, la NASA a lancé Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor était un engin spatial créé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. On a lancé cet engin de Cap Canaveral le 7 novembre 1996, dont le but était de cartographier la surface de Mars. La cartographie a commencé en mars 1999 et s'est achevée en janvier 2001. Après la mission principale, on a ordonné au Mars Global Surveyor de prendre des photos d'autres objets de destination. Le 2 novembre 2006, il n'a pas répondu aux messages et aux commandes. La prochaine tentative de communication avec Mars Global Surveyor a échoué. On a officiellement mis fin au projet en janvier 2007. Le 7 novembre 2005, le gouvernement de la junte militaire du Myanmar a déplacé la capitale du pays de Yangon à Pyinmana. Pyinmana est une ville de la province de Mandalay au Myanmar. Le gouvernement de la junte militaire du Myanmar a déplacé la capitale du pays de Yangon à Pyinmana le 7 novembre 2005. Depuis mars 2006, les médias et les agences gouvernementales locales ont nommé la capitale Naypyidaw, ou en langue locale signifie la capitale où habite le roi. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja, bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi jarak untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja, bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja, bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja, bila benar-benar saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, yeah, oh.
Katakanlah saja, bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Katakanlah saja.
Saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voilà la chanson intitulée Katakan saja ou en français dites-le simplement chantée par Harvey Malaiholo. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie. Voici mon Indonésie dont le titre est L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou abrégée en BNPB, soutient la conservation de la nature pour la durabilité de l'environnement. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou abrégée en BNPB, Donny Monardo, a encouragé toutes les parties, y compris les gestionnaires de conservation, les communautés et le secteur privé, à soutenir la conservation et la durabilité de l'environnement. Donné dans une déclaration écrite reçue par Antara, Jakarta, samedi dernier, a déclaré que les activités de conservation ou autres activités visant à préserver la nature nécessitaient la participation de la communauté, de sorte que de plus en plus de personnes sont préoccupées par les conditions environnementales actuelles. Donny Monardo, le chef de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, et son personnel ont visité la zone de conservation du parc Burumasigit Karombi à Cicalengka, Java Occidental, le vendredi dernier, qui est gérée par la Société des animateurs de la jungle et des alpinistes Wanadri. La zone de conservation de 12 000 hectares est gérée de manière à être replantée. Elle a été reproduite par plusieurs autres régions telles que Garut et Bekasi, et devient un lieu de formation de caractère pour les étudiants de diverses régions. Donny Monardo a déclaré que l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles soutenait également le concept des zones de conservation de Karombi et espérait que Wanadri pourrait renforcer la capacité de toutes les composantes contribuant à la conservation de la nature. À cette occasion, Donny Monardo a demandé à Wanadri d'établir une coopération avec la communauté afin de soutenir les activités de conservation et les institutions commerciales afin que les programmes et activités organisés par Wanadri puissent fonctionner de manière optimale et soutenus par le gouvernement provincial, des institutions commerciales et de la communauté. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Nur Afni Octavia dont le titre est Sayang, qui signifie chérie. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, je vous présente Tanjung Malaha, Sulawesi du Sud-Est. Si vous venez dans la province de Sulawesi du Sud-Est, n'oubliez pas de visiter la région de Kolaka. Kolaka a une topographie montagneuse avec une partie de l'archipel. En tant que destination touristique dans le Sud-Est de Sulawesi, Kolaka possède une richesse naturelle et un panorama magnifique. Là-bas, il existe la plage de Pitura, Tanjung Kayu Angin, le tourisme naturel de Mangolo, le Cap Malaha, les bancs naturels de Tamboration et de nombreuses autres attractions naturelles intéressantes à visiter. Cette fois, nous présentons l'une des beautés naturelles de Kolaka, à savoir Tanjung Malaha. Tanjung Malaha est situé dans le village de Malaha, dans la région de Kolaka. Vous pourrez voir une vue panoramique de la côte avec son sable fin et l'ombre d'épines. Vous pouvez jouer sur le sable fin ou nager en sentant la fraîcheur de l'eau. Profiter de la beauté du lever et du coucher du soleil est l'une des activités attendues par les touristes lors de leur visite ici. La vue sur le lever et le coucher du soleil à Tanjung Malaha est de plus en plus belle car ce site touristique est ouvert et non couvert par des zones montagneuses. Dans cette zone touristique, des spots photo instagrammables sont également disponibles pour ceux qui aiment la photographie. Visiter Tanjung Malaha n'est pas difficile. De la ville de Kolaka, le trajet en voiture ne dure que 30 minutes. La région de Kolaka est accessible par transport aérien via l'aéroport Sangiani Bandara. Les objets touristiques de Tanjung Malaha comprennent des parkings, des toilettes et des restaurants. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit, vous pouvez passer la nuit au centre-ville de Kolaka.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voilà la chanson de The Groove, intitulée Hayalan, qui signifie la fantaisie. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en formant sur le marathon de Borobudur 2019. Le 17 novembre, un marathon international, le marathon de Borobudur 2019, aura lieu au complexe Taman Lumbini dans la région du temple Borobudur à Magelang, Java Central. Le marathon de Borobudur 2019 offrira de nouvelles expériences aux touristes et aux coureurs pour explorer la ville Magelang d'une manière différente. Les participants seront chaleureusement accueillis par la communauté, sentiront les délices culinaires et diverses choses intéressantes offertes par Magelang. Cet événement sportif fournit également un espace pour le développement du secteur économique. Le tourisme sportif a un impact positif et significatif sur le secteur économique à Magelang et à Java Central. Le marathon de Borobudur 2019 est une compétition de course à pied à Java Central présentée par le gouvernement provincial de Java Central en collaboration avec le quotidien Compass et la banque de Java Central. Cette année, le marathon de Borobudur 2019 reprend le thème « Synergie et harmonie » qui est du sens « Construit des synergies ensemble et trouve l'harmonie dans la diversité ». Identique à l'année précédente. Le marathon de Borobudur 2019 a organisé des compétitions avec les catégories marathon, semi-marathon et 10K. Chacun est libre de s'inscrire en fonction de ses catégories et de ses capacités respectives via le site officiel de Borobudur Marathon. Au total, 8000 billets pour participer au championnat international de course à pied du marathon de Borobudur 2019 ont été officiellement disputés par le système de vote ou par tirage au sort. Les inscriptions pour cet événement prestigieux sont ouvertes depuis le 1er mai 2019 dernier. Le système de vote est une procédure d'enregistrement couramment utilisée dans de nombreux grands marathons du monde, tels que le marathon de New York, le marathon de Boston et le marathon de Tokyo. Grâce à ce système de vote, tous les coureurs peuvent avoir la possibilité de gagner des places. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, espère que le marathon de Borobudur sera le meilleur marathon d'Indonésie. Cette année, le marathon de Borobudur est devenu le top 10 des événements du ministère du Tourisme. Selon Nino Mardiana Pambudi, rédacteur en chef du quotidien Compass, il s'agit d'une des réalisations du marathon de Borobudur qui cherche également à avoir un impact sur les secteurs social et économique de la communauté de Magelang. Auparavant, le marathon de Borobudur en 2018 avait même remporté les prix du semi-marathon de l'année, du marathon de l'année, de la médaille de l'année, du marathon préféré, du meilleur semi-marathon et du meilleur marathon de l'année. Voilà l'Indonésie en couleur. Thank you.
sedih semua yang ada di hatiku ini. Ku hanya ingin dekatmu, namun kau selalu meniadakan aku.
Voice of Indonesia.
memaksaku. Rindu semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Chanson de The Cinnamons dont le titre est Selamanya Cinta qui signifie Amour pour toujours. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Chers auditeurs de Voice of Indonesia, on se retrouve au programme du magazine musical. Cette édition présente une chanson de Titi DJ. Titi Dwi Jayanti, ou aussi connue sous le nom de Titi DJ, est chanteuse, compositrice et actrice. Elle est également l'une des divas de pop en Indonésie. Depuis son premier album, Titi a été aidée par Indra Lesmana, musicien et auteur-compositeur. Mais sur l'album intitulé Bintang Bintang, paru en 1995, Indra Lesmana nang terferepa. Pas étonnant, si cet album de Titi est différent de l'album précédent. Au lieu de cela, Erwin Gutawa, Andy Ayunir et Adi Adrian ont été impliqués dans cet album. La chanson part de cet album s'intitule Bintang Bintang, ou en français Les Étoiles, est utilisée à participer au processus de fabrication. À ce moment-là, Titi venait de dévoiler son statut de célibataire, alors dans cette chanson, son bonheur et sa joie étaient très radieux. Chers auditeurs, voici Bintang Bintang, ou en français Les Étoiles, chanté par Titi DJ.
Of Indonesia.
voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.